Radio Ondaine vous propose pour cette année 2019 une série de tables rondes radiophoniques autour des violences faites aux femmes, violences intrafamiliales, avec des acteurs de notre territoire qui, de par leurs activités, apportent un soutien aux victimes et tentent de trouver des solutions dans l'accompagnement de celles-ci et de leur entourage. Aussi, nous essayerons avec nos invités de comprendre l'enjeu de la sensibilisation des plus jeunes sur ce fléau que sont les violences faites aux femmes. Nous tâcherons de ne pas oublier non plus le travail à réaliser avec les auteurs de ces violences pour éviter la récidive et pour une prise de conscience de ces actes. Dans cette nouvelle émission, nous nous sommes rendus le 1er octobre à l'espace Aretha Franklin de Montréno où SOS Violence Conjugale 42, le CIDFF Loire, Saint-Étienne Métropole et la préfecture de la Loire organisaient une journée de formation destinée aux professionnels sous le titre « Violence sexiste et égalité, faire bouger nos préjugés pour améliorer nos pratiques professionnelles ». Rencontre tout d'abord avec Sophie Rodriguez, directrice du CIDFF Loire, le centre d'information sur les droits des femmes et des familles.
Alors au CIDFF, nous avons pour mission, au-delà des permanences juridiques et de l'accès aux droits pour tous, des actions en direction du retour à l'emploi et du soutien à l'insertion professionnelle des femmes et à la promotion de l'égalité et de l'égalité professionnelle. Donc il était tout naturel pour nous de nous associer à cette journée, d'autant que nous travaillons en étroite collaboration avec la déléguée départementale aux droits des femmes, qui est notre ministère de tutelle, hein, si vous me permettez l'expression, et SOS Violence, dans la mesure où ces questions de violence sont aujourd'hui un peu mises sous le feu de l'actualité dans leurs expressions les plus dramatiques. Or, dans les actions de prévention et de promotion de l'égalité telles que nous les conduisons au CIDFF, il nous semble important de montrer que les préjugés et les stéréotypes organisent nos représentations dès le plus jeune âge et que nos actions peuvent aussi bien concerner des enfants, des adolescents, des jeunes adultes que des personnes dans le cadre de leur exercice professionnel. Donc sensibiliser des professionnels au fait que leurs propres préjugés sont à redécomposer pour qu'ils puissent prétendre accompagner les jeunes générations et participer à ce changement de mentalité auquel nous aspirons était une évidence.
Alors comment a été pensée cette journée-là, au terme de celle-ci, quels ont été les ateliers et puis les différents sujets traités?
Alors peut-être que la singularité de cette journée et de l'outil premier a été celui du recours à du théâtre et à donc une forme artistique de spectacle vivant qui a permis, et vraiment moi je découvrais la pièce de la compagnie Carnage, d'interpeller chacun de nous dans une forme qui mêlait à la fois l'individu, la personne, le professionnel et les situations qui nous étaient exposées, puisque le spectacle Pathologie traite de ces questions de sexisme, de violence ordinaire, je dirais, et notamment dans la sphère professionnelle. Donc chacun ici, avec son étiquette professionnelle, mais aussi en tant qu'homme ou en tant que femme, se sentait concerné. La forme du théâtre et le dynamisme de cette troupe ont fait que chacun s'est retrouvé impliqué et pas juste concerné intellectuellement.
Le reste de la journée, les ateliers de l'après-midi?
Je n'ai assisté qu'à un atelier, celui dans lequel j'étais en présentation d'outils, aux côtés d'SOS et de la compagnie Carnage, puisque nous avons fait le choix, justement, de présenter des outils très concrets aux professionnels pour leur montrer, j'allais dire, un panel parmi l'éventail d'offres possibles que nous allons avoir à construire ensemble pour répondre à leurs besoins, quel que soit le lieu d'exercice, le public ou les personnes bénéficiaires avec lesquelles ils souhaitent travailler ces questions.
Alors, quelle étape marque cette journée-là? Est-ce que c'est quelque chose qui va amener d'autres rencontres interprofessionnelles? Parce qu'on rappelle, ce n'était pas ouvert au public, mais à des professionnels pour s'interroger sur ses pratiques et puis ses propres stéréotypes aussi. Quelle est la suite?
Alors comme je vous le disais, c'est un travail qui s'inscrit au long cours. Depuis 4 ans, la délégation départementale aux droits des femmes et les associations soutenues par la préfecture et par l'État et Saint-Étienne Métropole organisent ces journées. Évidemment que le biais, l'entrée professionnelle, c'est qu'il est bien plus pertinent de sensibiliser des professionnels qui eux-mêmes, dans leur pratique, vont pouvoir toucher un large public plutôt que de chacun, dans son coin, tenter d'aller toucher un public dans tel ou tel lieu ou telle institution. C'est le début, j'allais dire, c'est en tout cas le renforcement d'une logique qui me semble être assez dynamique dans la Loire, de ce maillage entre les acteurs que sont ceux de l'éducation, éducation nationale, éducation populaire, professionnels, institutionnels du département, de la CAF, de la PMI, des centres sociaux, pour qu'ensemble, collectivement, nous fassions de cette promotion de l'égalité une réalité de plus en plus présente pour l'ensemble des habitants.
Alors, il me semble que pour l'actualité du CIDFF et l'actualité proche, une journée est organisée le 12 novembre autour de Comte.
Tout à fait. Donc cette journée, à contrario de celle d'aujourd'hui, est ouverte à un très large public. Donc on invite tous les Ligériens et Ligériennes à venir profiter, j'allais dire, d'espace qui, à partir du traitement du féminin dans le conte, vient soutenir cette question du stéréotype et de l'image qu'on attribue habituellement dans le livre et la littérature jeunesse aux filles et aux garçons, et à l'émergence d'une littérature qui, justement, vient soutenir cette question de l'identité sexuée et des rôles un peu assignés aux filles et aux garçons autrement.
Alors, ça aura lieu à quel endroit? Et puis, faut-il s'inscrire au préalable?
Donc cette journée se déroule à Saint-Priest-en-Jarret, elle est ouverte à tous, sans inscription. Si vous souhaitez davantage d'informations ou ne serait-ce qu'avoir l'affiche qui est quand même assez attractive et qui peut susciter en tout cas des curiosités, n'hésitez pas auprès du CIDFF, par mail ou par téléphone. Nous nous ferons un plaisir de vous faire suivre toutes les informations ainsi que la programmation dès qu'elle sera aboutie.
Écoutons maintenant Elisabeth Roman, fondatrice et directrice du magazine Chica, titre de presse destiné aux filles de 7 à 11 ans, unique dans sa vocation d'empowerment de sélectrice. Mais quelle a été la réflexion de départ pour la création de ce magazine Chica ?
La réflexion, c'est que quand on a une pensée unique, c'est quand même difficile d'évoluer dans un monde à pensée unique. Moi, l'idée, c'était de se dire, les petites filles ont tout à fait le droit de comme leur mère, d'être féministes finalement, même si c'est pas inscrit sur le devant du magazine. D'autres, donc, de rentrer dans l'empouvoirment. Et voilà, moi j'ai fait un magazine qui ne ressemble en rien à ce que l'on propose aujourd'hui aux filles de 7 à 12 ans.
Alors, est-ce que ça vient d'une proposition d'une femme adulte dans son combat au quotidien et son combat féministe? Ou est-ce que c'est aussi des discussions autour de soi, des réflexions par rapport à sa propre vie, son propre passé, de créer quelque chose finalement auquel on n'avait pas accès?
Alors, je ne peux pas vous dire que je me suis réveillée un matin et je me suis dit je vais créer Chica, mais je pense que mon passé, c'est-à-dire rédac chef de magazine pour enfants non genrés, ma vie, c'est-à-dire moi je suis restée quelque part une petite fille de 10 ans. Donc j'ai besoin de connaître des choses, moi quand je fais un magazine, c'est comme si j'étais ma première lectrice, en fait. Et je pense qu'en fait, oui, tout ce que je vois, évidemment, je ne peux pas vous dire que tout ce qui a été MeToo, Balance ton porc, etc., ce n'est pas des choses qui m'ont aussi travaillé. Et je sais que sur ce créneau-là, en fait, personne ne parlait aux petites filles, quoi. Et donc, c'était très important de leur parler, quoi. Donc, voilà, c'est pour ça que Chica est née.
Alors, je vais rester quand même sur mon sujet du féminisme. Quand on crée ce magazine-là, quand on va écrire ses pages, faire ses interviews, mettre ces rubriques-là, à quoi on pense? Est-ce qu'on pense à la conscience politique, entre guillemets, ou est-ce qu'on pense à la construction?
C'est-à-dire qu'au fond, c'est un travail d'archéologue. Hein. D'abord, on voit où sont les problèmes. Donc une fois qu'on a vu où sont les problèmes, c'est-à-dire pas assez de femmes du présent représentées, pas assez de femmes du passé représentées, des messages qui vont toujours vers les garçons, des petites filles qu'on ne met jamais en avant, c'est-à-dire une fois qu'on a vu tout ça, les rubriques sont faites en fait. Donc au départ évidemment il y a un message politique, c'est-à-dire on a quand même envie que les filles aient autant de chances que les garçons et vivent demain dans un monde égalitaire. Et puis après, quand on regarde sur quoi ça pêche, on voit tout ce qui pêche et les rubriques se font toutes seules en fait. Voilà.
Alors dans la construction d'un magazine, il y a aussi le financement, c'est quelque chose d'important. Vous avez souhaité opter pour le crowdfunding, non pas la publicité, parce que j'imagine que dans les magazines pour enfants, c'est difficile aussi de faire le choix chez les promoteurs, entre guillemets. Donc ce choix du crowdfunding s'est fait de quelle manière et puis comment ça existe aujourd'hui un magazine comme celui-ci?
Le crowdfunding, je suis allée sur Ulule, j'ai créé ma petite page, ça a duré 2 mois et en fait j'ai récolté 65 000 euros, ce qui est une somme assez énorme pour un magazine pour enfants. Et ça m'a permis, donc évidemment j'ai dû avoir 2000 personnes qui ont participé, donc de créer le numéro 1. Mais en fait, par ce crowdfunding, je vendais des abonnements et j'ai eu une couverture de presse assez incroyable pour le lancement d'un magazine papier Tous les grands médias ont annoncé ma sortie avec beaucoup, beaucoup d'enthousiasme. Et donc, ce qui fait que moi, tous les jours, je continue à avoir des abonnés qui viennent sur mon site. Et donc, moi, ça me permet, d'imprimer, de distribuer, sans avoir pour l'instant été voir une banque ou sans avoir touché mes deniers personnels ou sans être allé en kiosque, en fait.
Alors, lors de la discussion tout à l'heure, vous disiez de toute façon que effectivement le premier numéro et le second même s'adressaient à des convaincus, des gens qui appréciaient la démarche et qui avaient aussi au sein du cercle familial ces questions en tête. Comment on élargit finalement ces lecteurs? Quelle est la stratégie, si on parle de stratégie? Qu'est-ce qui va être l'avenir de Chica?
Alors la stratégie, ça va être assez clair, les CDI. Donc on a un relais auprès des personnes qui s'occupent des CDI, bon, généralement des femmes bien sûr, mais et on sait qu'elles vont faire des choses autour du magazine parce qu'elles me le disent. Et puis on va aussi créer des ateliers, je vais en faire plusieurs au mois d'octobre, et les premiers, pareil, seront auprès de convaincus, je pense. Mais après, on va essayer de former des gens pour faire comme dans des écoles ou dans des centres de loisirs. Venir porter, pas la parole de Chica, pas du tout, mais la parole de l'égalité entre filles et garçons. Parce que effectivement, il y a déjà des associations qui font ça, etc. Mais plus on est nombreux, moi, je pense que plus on y arrivera, quoi.
Alors, ce jour se rassemble sous ce nom-là, violence sexiste et égalité, faire bouger nos préjugés pour améliorer nos pratiques professionnelles. Ce sont donc des professionnels à l'invitation du CIDFF, de SES Violence Conjugale 42 et de la préfecture de la Loire, Saint-Étienne Métropole également, qui viennent ici à assister à différents ateliers et dont le vôtre. Comment vous vous reconnaissez là-dedans, ou pas d'ailleurs? Et puis finalement, parler avec des professionnels, ça apporte quoi?
Alors, je m'y reconnais totalement parce que je pense que même si évidemment c'est pas écrit, je pense qu'à partir du moment donné où on s'intéresse aux enfants et à l'égalité et à l'empouvoirment des enfants, à un moment donné, on laissera aussi les garçons rentrer dans ce changement, c'est-à-dire les garçons, leur violence ne vient pas d'un gène de la violence. Hein. Les garçons qui tapent leurs femmes, donc on parle de violence, les garçons qui tuent leurs femmes, les hommes qui tuent leurs femmes. Il y a quand même quelque chose qui vient de l'éducatif et de « tu ne pleures pas, le garçon ne pleure pas, un homme ne pleure pas, un homme ne montre pas ses émotions ». Et ce qui fait que finalement, souvent, c'est la colère qui peut sortir et qui peut sortir d'une façon extrêmement violente. Donc je pense que ce qui est important, moi je me reconnais donc dans cette action-là, puisque moi, en fait, je veux donner ce message que les choses se font très jeunes et qu'on peut changer les choses, mais il faut les changer très jeunes. C'est-à-dire, c'est bien aujourd'hui de se demander pourquoi les hommes frappent leurs femmes, certains hommes frappent leurs femmes, mais il faut aussi se demander à quel moment on peut intervenir pour que ça n'arrive plus. Et effectivement, l'éducation, c'est au plus jeune âge, c'est hyper important pour ça.
Donc, besoin de changer les mentalités. Chica apporte un autre point de vue, une autre façon de faire aussi. Vous avez parlé d'une bonne couverture médiatique, de bons retours. J'imagine qu'il y a eu des retours mauvais, peut-être. De la part de qui?
En fait, les seuls qui ont fait... Moi, je pensais avoir des anti-féministes, pas du tout. Non, en fait, on m'a expliqué que Chica était sexiste. Et Chica n'est pas sexiste. Chica s'adresse aux filles pour plein de raisons. La première, c'est que l'empouvoirment des garçons n'est pas le même que celui des filles. Et les filles, elles ont besoin d'être portées dans la force et dans la puissance. Les garçons, on a besoin de les ouvrir à leurs émotions. Donc voilà, ce serait deux magazines différents, je veux dire, les garçons peuvent le lire bien sûr, mais ça va leur montrer ce que peuvent être les filles, mais eux-mêmes de leur côté, ça ne va pas les aider forcément. Et puis un magazine pour les enfants, on tutoie le lecteur et la plupart des magazines et tous les magazines pour enfants, on va dire tu es prêt. Moi l'idée c'est que je voulais dire tu es prête. Donc je ne suis pas. Et puis bon, il y a des psychologues qui ont dit mais oui, les filles doivent avoir leur endroit. comme en Islande où les filles et les garçons ne sont pas forcément ensemble toute la journée. Il y a une heure par jour où ils sont ensemble. Sinon, d'un côté, les filles sautent en l'air, grimpent dans les arbres, etc. Et de l'autre côté, les garçons sont calmes dans des pièces, en train parfois même de se passer du vernis, vous voyez. Voilà, donc moi, c'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire que moi, je prends les filles avec moi. Les garçons, si vous avez envie de lire, il n'y a pas de problème. Mais on est ensemble entre filles et on essaye de devenir plus fortes.
Alors pour nos auditeurs, comment peuvent-ils se procurer Chica et puis ou en avoir un aperçu notamment sur Internet ?
Eh ben, il suffit d'aller sur chica.fr, T-C-H-I-K-A.fr. Et là, voilà, je ne suis pas en kiosque, je suis dans quelques librairies, mais vous pouvez me découvrir sur Internet.
Pour conclure ce reportage, nous avons interrogé Pauline Chassin, déléguée départementale en charge de l'égalité femmes-hommes pour la préfecture de la Loire. Elle nous explique les raisons de la co-organisation de cette journée de formation destinée aux professionnels, sous le titre, je le rappelle, « Violence sexiste et égalité, faire bouger nos préjugés pour améliorer nos pratiques professionnelles ».
Parce que tout seul, voilà, ça a moins de répercussions, parce qu'on n'a pas tous les mêmes réseaux. Il y a des réseaux institutionnels, il y a des réseaux associatifs. Et puis, c'est une question d'intelligence collective. C'est un concept qu'on retrouve bien en ce moment. C'est qu'en fonction de qui on est, d'où on est, on n'a pas les mêmes réflexes, on n'a pas les mêmes... idées. Donc là, quand on échange entre institutions et associations, je trouve que c'est toujours plus riche. Et en général, on a une réponse qui est plus satisfaisante au final.
Mobiliser les associations, est-ce que c'est simple ? Et organiser quelque chose comme ceci, avec différents intervenants, qu'est-ce qu'on en fait après ?
Justement, c'est pas simple. Ça fait 5 ans à peu près qu'on essaye. Aujourd'hui, on se dit que le travail porte ses fruits puisque c'est une journée où on a fait une salle comble. On a eu beaucoup de demandes sur les ateliers, ce qui n'était pas forcément le cas sur les précédentes éditions. Donc voilà, c'est un travail de longue haleine. On essaye chaque année de répondre aux besoins qu'on a eu, qui sont remontés de la part des professionnels. Donc on voit bien qu'il y a des sujets qui ressortent selon les années. Et là, ce qui a fait qu'on a intégré la question des violences, c'était clairement le Grenelle des violences conjugales. Et puis les sollicitations de plus en plus importantes de structures associatives, de par exemple de médiateurs, j'ai eu cet été pour les logements sociaux. Voilà, on voit bien que tout le monde comprend qu'il y a un vrai sujet et qu'en tant que professionnel, quand on travaille sur les ateliers, on se dit comment on peut apporter un peu d'aide sur le quotidien, sur les réponses concrètes. Et du coup, on choisit les thèmes en fonction des besoins qui nous sont remontés.
Alors, vous avez évoqué le Grenelle, c'était la date de lancement le 3 septembre, le Grenelle autour des violences faites aux femmes. Y a-t-il des directives et un programme à déployer sur le territoire depuis cette date-là et à quoi faut-il s'attendre ?
Les directives qu'on a au niveau national, c'est un démarrage début septembre, une fin 25 novembre, puisque c'est une date incontournable, la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et après, on a une certaine latitude sur chaque département pour creuser tel ou tel sujet, pour mettre en place des initiatives locales à partir des réseaux et des professionnels qui sont impliqués. Ce que je peux dire sur la Loire, c'est qu'on a un CLAV qui a été mis en place, Comité local d'aide aux victimes, copiloté préfet-procureur, avec 50 participants engagés sur les sujets. On a, nous, prévu des visites, par exemple, des services de police. On a prévu, c'était prévu avant, hein, mais ça permettra de donner encore une autre dimension, c'est le lancement d'un livre pour aborder le sujet avec des enfants. Donc un livre qui a été co-conçu avec une artiste locale, des victimes et des enfants. Et on pense que ça va vraiment être un outil pour les professionnels pour aborder le sujet avec les enfants qui sont aussi victimes de cette situation de violence conjugale qu'on appelle les enfants exposés.